France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
L'étude des vestiges passés des aborigènes d'Australie révèle une approche archéologique profondément différente des méthodes traditionnelles. Comment bouscule-t-elle notre vision européano-centrée de l'archéologie ? Les aborigènes ont foulé le sol australien bien avant l'arrivée des premiers sapiens en Europe. Les premières peintures rupestres identifiées remontent à environ 30 000 ans. C'est l'un des exemples les plus anciens d'art pariétal. L'Australie a gardé la mémoire des peuples premiers grâce à une puissante tradition orale. Certains rituels ont été pratiqués de manière continue pendant plus de 12 000 ans, depuis le paléolithique jusqu'à l'arrivée des colons européens. Ce n'est donc pas de la préhistoire au sens occidental du terme, mais un continuum culturel à travers les âges. Archéologie aborigène, les vestiges du présent. Et Arnaud Morvan, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Merci d'y avoir répondu et d'y faire honneur. Vous êtes chercheur en anthropologie, histoire de l'art autochtone à l'université de Brest et de Melbourne. Vous êtes spécialisé dans l'étude de l'art aborigène australien. Nous sommes en ligne également avec Jean-Jacques Delannoy. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes anthropogéomorphologue, professeur à l'Université Savoie-Mont-Blanc et membre du Centre d'Excellence pour la Biodiversité et le Patrimoine Australien. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky tous les jours. Nous postons pour vous de nombreuses ressources sur notre compte @sciencesqfd. Alors, quelles sont les spécificités de l'archéologie aborigène? Quelle place occupent l'art et les rituels chez les autochtones et depuis combien de temps? Et comment cet art a-t-il été transmis et transformé au cours des millénaires? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. Nous sommes en 1983.
Les peintures rupestres se rencontrent en Australie, dans différents endroits de l'Australie. Il y a un grand arc qui part de l'Australie et de l'Ouest, qui fait tout le nord australien et jusqu'à la côte Est. Alors, ce sont des peintures sur un bris sous roche, n'est-ce pas ? Il y a différents styles, il y a deux principaux styles, il y en a même plusieurs, mais pendant Arnhem Land, il y a ce qu'on appelle le style Mimi. C'est un style extrêmement dépouillé, ce sont des petits personnages qui ont été tracés d'une main très, très alerte, extrêmement vivante. On a l'impression que ces gens vont bouger. Hein. Et puis il y a un autre style qui lui est beaucoup plus statique, qui représente souvent des personnages ou des animaux, avec ce qui intéressait l'homme qui les a peintes, c'est-à-dire l'intérieur de l'animal. Et on voit souvent ce qu'on appelle ça le style rayon X, le style radiographique. C'est-à-dire on aperçoit tous les organes, par exemple, d'un kangourou ou d'un homme. Et ça, c'est lié à leur croyance, à leur religion totémique. Alors, ces fresques sont remarquables. Elles sont innombrables, innombrables. Alors, rien que dans la péninsule du Cap York, on a dénombré 200 grottes avec des fresques qui sont fort belles. Dans le nord de l'Australie, il y a également dans la région d'Arnhem Land, dans les Kimberley, il y a d'innombrables peintures rupestres. Tous les ans, on en découvre de nouvelles. Alors, elles remontent, certaines sont très anciennes, et d'autres sont relativement récentes, puisque la tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours.
Un extrait de l'émission Les Nuits Magnétiques sur France Culture et la voix de l'ethnologue Jacques Vimot en 1983. Jean-Jacques Delannoy, on continue toujours de découvrir aujourd'hui de nouvelles fresques, de nouveaux styles graphiques et de nouvelles grottes.
Oui, tout à fait. Oui, l'Australie est de ce côté-là un continent absolument remarquable. Remarquable effectivement par la diversité et la beauté des sites et des sites ornés, bien entendu. Ce qui a été dit et qui est extrêmement important, ce sont des sites dans lesquels on a une profondeur du temps qui n'existe pas du tout, en Europe, puisque chez nous, les sites ornés correspondent à ce qu'on appelle la période de la préhistoire, donc quand on était encore chasseurs-cueilleurs, voire le début du néolithique, quand les gens commençaient à pratiquer l'agriculture. Mais voilà, après ça s'arrête, quoi. À partir du moment où la tradition, écrite va prendre le dessus, tout ce qui va être l'art pariétal, qui est des supports à des histoires, à de l'oralité, va disparaître en Europe. Alors qu'en Australie, effectivement, c'est quelque chose qui va perduré durant des millénaires. Et il y a des sites, effectivement, on a des peintures depuis 35 000 ans jusqu'au début du XXe siècle. Et il y a toutes ces histoires qui sont inscrites dans un même site. Et ça, c'est effectivement fabuleux.
Arnaud Morvan, pour réagir et compléter, vous aussi, l'écoute de cette archive, c'est vrai qu'on entend cette profondeur du temps et aussi cette façon différente d'habiter le temps.
Oui, effectivement, pour les aborigènes, il y a une sorte de superposition du temps. Il y a un temps assez profond et dans la culture aborigène, on peut accéder à des strates de la mémoire assez anciennes et qui sont souvent inconscientes et révélées par des activités rituelles et par ce qui fait la spécificité un petit peu de la culture aborigène aussi, c'est l'activité onirique et les révélations dans les rêves, les visions que les individus peuvent recevoir de leurs ancêtres et qui vont être le support à de nouvelles créations et à la remémoration d'épisodes mythologiques très anciens, souvent liés à la création de certains lieux et des paysages australiens.
Alors avant de parler des premières œuvres, de leur résurrection, leur résurgence contemporaine, peut-être on peut parler des premiers hommes et des premières femmes d'Australie. Jean-Jacques Delannoy, l'histoire de l'Australie remonte à très loin. Quand est-ce que des premiers hommes ont-ils foulé le sol du continent ?
Alors, en fonction des études archéologiques qu'on dispose aujourd'hui, bon, qui commencent à devenir relativement solides, c'est autour de 60-70 000 ans avant aujourd'hui que les Homo sapiens, les premiers hommes en fait, parce qu'il n'y a pas eu d'autres humanités qui étaient venues avant sur l'Australie, qui arrivent en fait sur ce continent en passant par... En fait, par un passage qui n'existe plus, puisque tout ça s'est fait à des moments où, dans les temps froids, où donc l'océan était 150 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'on avait un continent qui allait de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Indonésie, et puis un autre continent tout proche qui était celui qui rattachait l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et entre ces deux ponts continentaux, on avait tout un petit chapelet d'îles, et c'est par là qu'ils sont arrivés, par ces chapelets d'îles, où les îles étaient distantes de quelques kilomètres, au grand maximum une centaine de kilomètres, mais plutôt un peu comme on a aujourd'hui au niveau du détroit de Gibraltar, voilà, donc voilà un peu la distance qui pouvait être traversée au niveau maritime. Et voilà, ils sont arrivés donc dans le nord, en fait, du continent australien, il y a environ 60-65 000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde tous ces sites archéologiques et surtout ornés de l'Australie, extrêmement bien conservés, parce que le climat aussi et puis la faible démographie font que tous ces sites sont extrêmement bien conservés, et puis aussi conservés par les usages qui sont faits par les communautés. Et ben on sait que voilà le sud de l'Australie, les gens arrivent à environ autour de 40 000 ans. Donc voilà, on a comme ça le temps aussi de l'arrivée et puis de la migration de des premiers hommes, enfin des premiers Homo sapiens sur le continent australien. Voilà, il a fallu 20 000 ans pour aller du nord au sud, et ce qui est voilà et qui donne un petit peu aussi des informations sur les distances, sur les parcours qui sont qui ont été faits, et justement contournant ce grand désert central de l'Australie. Donc on peut refaire les routes de manière assez précise de ces premiers hommes qui sont arrivés là et puis qui ont été jusque la Tasmanie, puisque la Tasmanie à l'époque était également rattachée à l'Australie. Donc toute cette histoire-là, elle est inscrite finalement dans les sites archéologiques.
Oui, c'est ça, c'est que l'île à cette époque, cette île continent ne ressemblait pas du tout à celle qu'on connaît aujourd'hui. On peut aussi peut-être ensemble, Jean-Jacques Delannoy, décrire quelles ont été les grandes mutations de ce territoire, puisque le niveau de la mer a considérablement fluctué au cours des temps.
Oui, alors le niveau de la mer, effectivement, auparavant, comme l'océan, en fait, le niveau de l'océan était descendu de 150 mètres du fait, en fait, des grandes glaciations sur l'hémisphère nord, donc ce qu'on appelle les périodes glaciaires, donc l'eau restait stockée dans les glaciers, et du coup, les océans se sont abaissés progressivement. Bon. L'inverse de ce qui se produit aujourd'hui avec le réchauffement climatique, et qui fait que, bon, finalement, on a comme ça des ponts continentaux qui ont fait que la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie et la Tasmanie, c'était un même continent avec donc forcément des littoraux qui étaient aujourd'hui, qui sont aujourd'hui sous le niveau de la mer. Donc l'information qu'on a, c'est ce qui est aujourd'hui pas noyé, mais si on faisait des recherches sous-marines cette fois-ci, peut-être qu'on retrouverait des sites sur les anciens littoraux qui étaient connus par les premiers hommes de l'humanité. Il y a des gens qui travaillent là-dessus.
Recherches sous-marines, en effet, il y en a qui ont été faites. En 2020, on a découvert les deux premiers sites préhistoriques sous-marins en Australie avec des vestiges dans des fonds marins, alors peu profonds, mais qui des vestiges vieux d'au moins 7000 ans, peut-être plus, 300 artefacts, une cinquantaine d'outils remontés des eaux. On peut imaginer tout ce patrimoine culturel immergé. Alors, Arnaud Morvan, on évoquait à l'instant peut-être la faible démographie de ce territoire. Au moment de l'arrivée des Européens, est-ce qu'on sait combien de nations, de peuples aborigènes qui vivaient là ?
Alors, il y avait une grande diversité de populations et de nations aborigènes en Australie, parce que les gens sont arrivés à partir de 65 000 ans, il y a 65 000 ans, et ils sont arrivés par petits groupes distincts, et ensuite ils ont allé peupler toute l'Australie, et donc cette diversité s'est maintenue et s'est développée au fil du temps. Et donc on estimait à l'arrivée des Européens à peu près une diversité linguistique estimée à peu près entre 320 et 250 langues différentes, avec des grandes différences de langue d'une côte à l'autre de l'Australie. Donc une diversité qui a continué jusqu'à aujourd'hui, malgré la colonisation. Et donc de nombreuses langues ont aujourd'hui disparu, mais par contre les groupes, la plupart des groupes ont quand même subsisté, et certains réapprennent des langues aujourd'hui disparues et se réapproprient les cultures qui ont été impactées par la colonisation.
L'histoire de la colonisation, on peut rappeler quand même ces grandes lignes. Le 28 avril 1770, lorsque débarque pour la première fois l'explorateur britannique James Cook, il déclare le continent australien Terra Nullius, terre sans maître. Arnaud Morvan, on peut peut-être rappeler par la suite quelles ont été les conséquences de l'arrivée des Européens en 1788.
Oui, alors... les conséquences ont été assez catastrophiques, et notamment suite à cette notion de terra nullius, qui considère donc que la terre, que c'est, l'Australie est une terre qui n'appartient à personne. En fait, les aborigènes ont été considérés comme des nomades qui n'avaient pas le concept de propriété terrienne, et par conséquent, ils pouvaient être expropriés, ils étaient considérés au même niveau que de la faune et de la flore locale, ce qui a conduit donc à des déplacements de population, des massacres, malgré une résistance aborigène assez farouche qui a été documentée assez récemment. Mais effectivement, c'était une des colonisations les plus violentes de l'histoire. De l'histoire mondiale. Aujourd'hui, les aborigènes ont réussi à récupérer une partie de leur territoire, et au niveau démographique, ils sont revenus à peu près au même niveau qu'ils étaient, donc c'est-à-dire à peu près 1 million d'aborigènes aujourd'hui en Australie. Donc le même niveau qu'au début de la colonisation.
Puisqu'il faut aussi rappeler qu'entre 1910 et 1970, jusqu'à un enfant aborigène sur trois a été enlevé à ses parents pour être placé dans des orphelinats ou des familles blanches, afin d'être assimilé. C'est ce que rappelle un rapport gouvernemental. Alors maintenant, comment lire les traditions dans la pierre, et que nous racontent les traditions orales toujours réactivées ? Restez avec nous.
France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, avec Arnaud Morvan et Jean-Jacques Delannoy, nous parlons d'archéologie aborigène. On vient de voir que cette tradition culturelle des peuples autochtones d'Australie est un continuum ininterrompu. Depuis la préhistoire, les peuples aborigènes ont développé une vie rituelle riche, complexe, des langues, des coutumes, une spiritualité, des lois, dont cœur était la connexion à la Terre. Ce rapport à la Terre, Jean-Jacques Delannoy, c'est quelque chose que vous étudiez avec cette discipline qui est vraiment un piège à prononcer, l'anthropogéomorphologie. C'est une discipline qui s'inscrit dans la géomorphologie, mais en quoi consiste-t-elle plus précisément?
Alors bon, effectivement, c'est un mot un peu compliqué à prononcer. Bon, il y a donc l'homme et puis la géomorphologie. En fait, la géomorphologie, c'est reconstituer l'histoire, les mémoires inscrites dans le minéral, c'est-à-dire dans du rocher, et de voir comment le relief qu'on va lire, les formes qu'on va essayer de décrypter, ben, sont l'expression soit d'une évolution naturelle du climat, de variations environnementales, mais aussi, et c'est en ça que l'anthropogéomorphologie, ben, ce paysage, ces reliefs, ils ont été aussi façonnés par les communautés humaines, et elles ont transformé. Donc, et ces transformations, ben, on va le lire en fait dans la pierre. En fait, la lecture de l'anthropogéomorphologie, c'est finalement lire l'histoire des hommes inscrite en fait dans une toile minérale, dans du rocher. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau, parce que ça oblige à regarder ces paysages, ces reliefs à des échelles à laquelle on n'est pas forcément habitué à regarder, donc sur des petits espaces. Et c'est là qu'on va détecter qu'il y a des endroits où il y a eu des enlèvements qui ont été faits, des espaces qui ont été ouverts, et que la nature n'a pas pu faire ça, et que donc c'est les groupes humains passés qui ont façonné, en fait, comme aujourd'hui on aménage un territoire, on va aménager, ils ont aménagé, transformé, modifié ces fameux abris sous roche ou des grottes ou d'autres espaces dans lesquels donc qu'ils ont fréquenté au travers soit d'un certain nombre de rituels ou pour l'ornementation de type art pariétal.
Alors cet art pariétal, justement, cette production artistique, quelles sont les plus anciennes datations archéologiques dont on dispose?
Alors les plus anciennes, il se trouve que l'art pariétal qui est fait en Australie, et comme dans beaucoup de contrées du monde, sont souvent faites avec de l'ocre, c'est-à-dire des oxydes de minéraux, et qu'on peut pas dater en fait directement. Donc en fait, les datations qu'on pourra faire sur ces peintures sont toujours des datations un peu indirectes, c'est-à-dire c'est la goutte de peinture qui est tombée au sol, et le sol, après, il y a des niveaux archéologiques qui vont être dessus, donc on va pouvoir, avec des charbons de bois, peut-être dater cette couche sur laquelle il y a des gouttes de peinture, on va retrouver des crayons d'ocre. Donc c'est un peu très différent, par exemple, de la grotte Chauvet en France, où effectivement les peintures ont été faites avec des charbons de bois, donc là on peut dater directement les peintures. Mais bon an, mal an, donc les premières peintures, elles datent autour de 30 000 ans. Dans le site de Nawala Gabarman, on a donc en terre d'Arnhem, là on a des peintures, un élément de peinture qu'on a retrouvé dans des fouilles archéologiques qui a été fait cette fois-ci avec du charbon de bois, c'est là une des rares, autour de 27 000 ans. Voilà, donc on est sur, pour les plus anciennes, on est à ce niveau-là. Et notamment pour ce site de Nawala Gabarman, qui est vraiment le site majeur, que je veux dire, orné, 1400 entités graphiques dans ce site, on a des peintures qui ont perduré jusqu'à 1908-1920. Donc là, on a des superpositions de peintures, d'histoires, et puis aussi avec des grandes variations, en fait, dans les thématiques qui sont abordées, comme déjà dit dans le petit reportage qu'on a eu en entrée de cette émission. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, bon, bien entendu, tout ce qui est art pariétal est un support, en fait, à des récits, est un support à des rituels, est un support à des histoires. Et notamment, on parlait tout à l'heure, donc Hervé Morand, donc nous parlait de l'arrivée donc des premiers hommes blancs en terre d'Arnhem, alors qu'on est à plusieurs centaines de kilomètres du littoral, eh ben on a des peintures où on voit donc un bateau qui est dessiné avec des personnages avec des chapeaux, une pipe, et peint en blanc justement pour bien distinguer des autres peintures. Bon voilà, donc c'est une histoire qui racontait de ces gens qui arrivent un peu bizarres avec des accoutrements un peu bizarres, avec des très très grands bateaux qui racontaient en plein milieu donc de ce plateau éloigné de plusieurs centaines de kilomètres du littoral.
Ce sont vraiment donc il y a des livres d'histoire
extrêmement étonnantes. Oui.
Ce sont des livres d'histoire, mais d'ailleurs par rapport aux premières fouilles de Nawarla Gabarnang que vous avez donc fouillé avec vos équipes, Jean-Jacques Delannoy, à ce moment-là vous découvrez des outils, des haches, des éclats de silex sont disposés comme ça, dans des petites encoches creusées dans les parois, et au départ, vous ne les compreniez pas du tout.
Alors, tout à fait, oui. Alors, donc, c'est un site qui était un des premiers sites, fait partie des premiers sites habités par les premières personnes qui arrivent, Homo sapiens qui arrivent sur l'île, donc autour de avant 50 000 ans. Donc, on trouve des vestiges d'itiques, des pointes de flèches ou des matériels qui est taillé. Dans le site, et puis après il y a on remonte le temps au fur et à mesure qu'on va remonter vers la surface, et à un moment donné effectivement on a trouvé des tas de haches polies en fait qui datent de 35 000 ans, donc qui sont des haches polies d'une facture remarquable. Si on fait le parallèle un petit peu ce qui se passe en Europe, les haches polies en Europe elles arrivent à environ de 5 000 ans avant aujourd'hui, donc voilà, on voit qu'il y a déjà un gap donc dans les technologies. Et effectivement, ces haches polies, au fur et à mesure des fouilles, on les voyait toujours dans des encoches de la paroi. Et on ne comprenait pas du tout pourquoi. Donc, on disait, est-ce que c'est au fur et à mesure qu'elles ont été déposées, elles ont peut-être ripé un peu, elles se sont mises dans ces encoches. Et en fait, c'est... Une des dames, donc, qui s'appelle Margaret Catherine, qui était la doyenne de la communauté Javoy, avec qui on travaillait... qui à un moment donné, on a posé un peu la question et elle nous dit, oui, c'est normal, on range toujours des choses qui sont importantes dans les encoches en fait du rocher ou du site. Et de fait, on avait souvent observé qu'elle levait la main et puis elle mettait des petits morceaux de bois, des morceaux de cailloux, des choses comme ça dans des encoches. Mais on n'a pas fait forcément attention au début. Et en fait, voilà, c'est exactement les mêmes gestes qui sont faits. Et pour elle, c'était pas du tout étonnant de trouver ça dans les encoches. Donc ça, c'est aussi une chose qui est une force en fait de travailler dans ces sites, c'est que voilà, on travaille avec des communautés qui, bien que ces populations elles ont été déplacées, elles reviennent sur leur site. La tradition orale fait que, il y a encore des histoires que les gens transmettent. Et voilà, donc cette transmission est extrêmement importante. Il y a vraiment des histoires extraordinaires dans cette transmission orale.
Comme ça, ce dialogue constant avec les descendants des anciens habitants, ça permet de pratiquer une archéologie profondément différente. Vous évoquiez tout à l'heure la grotte Chauvet en Ardèche. Elle aussi, au titre de comparaison, on est à moins 30 000 ans, mais la grotte Chauvet restera très probablement à jamais un mystère, Jean-Jacques Delannoy.
Oui, tout à fait. En fait, la grande différence, c'est pour ça que quand on fait, mais je pense que Hervé Morand a le même sentiment, on ne fait pas du tout la même sociologie, la même anthropologie quand on est en Europe et, avec des populations premières, qu'elles soient australiennes, amérindiennes ou en Amazonie, parce que cette notion de préhistoire et d'histoire n'existe pas. En fait, il y a un continuum. Et des fois, même, on fait des fois des petites erreurs. Je veux dire qu'on dit, les hommes de la préhistoire, paléolithique, chasseurs-cueilleurs, pour nous, c'est la préhistoire. Non, ils étaient chasseurs-cueilleurs il n'y a pas si longtemps et ils n'étaient pas dans la préhistoire, ils étaient complètement dans l'histoire. Donc, c'est aussi une manière de revoir un petit peu notre monde et la continuité du monde. Et la force de la tradition orale. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant.
Cette force de la tradition orale, en effet, là, on évoque l'aspect matériel, mais aussi donc toute l'importance de cette transmission orale, artistique dans l'histoire autochtone australienne. Depuis des millénaires, la mémoire des populations aborigènes d'Australie se propage à travers ce qu'on appelle les songlines, littéralement les chants des pistes. Alors là, on entend Yidundama Bilarné qui partage une partie de sa ligne de chant Gujinja, où ses ancêtres zigzaguaient, je cite, à travers son pays, tout au long de leur périple. Arnaud Morvan, ces lignes de chant, ce qu'on entend là, en fait, ce sont une sorte de cartographie sophistiquée du territoire, c'est ça?
Oui, c'est les songlines. Ça peut se définir comme un ensemble de textes sacrés, en fait, qui est mémorisé sous forme de chants et qui retrace les itinéraires des ancêtres totémiques qui ont formé les différents paysages de l'Australie et qui forment une carte, en fait, qui s'étend, une carte mythologique qui s'étend sur l'ensemble du continent australien. Et donc, il y a des continuités entre certaines pistes de chants qui traversent l'Australie d'est en ouest ou du nord au sud. Et chaque gardien rituel, chaque initié aborigène, homme ou femme, est généralement responsable d'une section de ces itinéraires et donc connaît une partie de la signification de ces chants et de ces lieux et des différents savoirs qui sont reliés. Et la personne du clan suivant connaît la suite de l'histoire ou la partie qui vient avant. Donc il y a une interdépendance comme ça de cette sorte de mythologie qui est inscrite dans le territoire. C'est comme si vous aviez une sorte, c'est comme si la Bible en fait était incarnée dans des lieux et pouvait se lire dans les différents aspects du paysage, dans les grottes, dans les arbres, dans les escarpements rocheux, dans les collines et un peu partout en Australie.
Ils sont parfois comparés à l'Iliade, l'Odyssée ou le livre de la Genèse. Ce sont des récits fondateurs comme ça qui articulent savoir écologique, astronomique, savoir sociaux, spirituel. Arnaud Morvan.
Oui, c'est un ensemble de savoirs assez vaste et qui est souvent lié à des questions aussi écologiques et il y a une savoir de gestion de l'environnement qui s'est développé à travers les millénaires. Donc il y a une forme d'effectivement de continuité en Australie qu'on retrouve, mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas évolué. En fait, c'est plutôt une accumulation de savoir qui a conduit à une grande complexité de connaissances au niveau du système de parenté, au niveau mythologique et au niveau également de la conservation et de la façon dont on a façonné les paysages. Et ces paysages ont été façonnés de manière à avoir accès à des ressources de manière assez pérenne. Avec des pratiques qui peuvent être liées à des pratiques d'une certaine forme d'agriculture en certains lieux, d'aquaculture, des techniques de brûlis qui permettent d'étager en fait la végétation pour attirer le plus de diversité biologique possible pour obtenir des ressources. Mais tout cela se faisait de manière assez collaborative, assez collective, en forme de collaboration entre les différents groupes et entre les humains et les non-humains par endroit. Et donc voilà, donc c'est une gestion environnementale qui est assez étonnante, qui a été redécouverte assez récemment, notamment avec les travaux de Bill Gamage ou de Bruce Pascoe, et qui montre que l'Australie et les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres ont développé des techniques de gestion de l'environnement assez bénéfiques. Et contrairement à ce qu'on pensait, ce que pensaient les premiers colons, les paysages australiens ne sont pas du tout naturels, mais ont été complètement sculptés par l'homme, comme le disait mon collègue.
Ça, c'est étonnant, parce que ça doit faire débat, j'imagine, chez les archéologues Arnaud Morvan, aujourd'hui encore, quand on parle de peuples nomades, mais en même temps qui savent sculpter des paysages.
Oui, tout à fait, parce que ça remet un petit peu en cause le concept de chasseur-cueilleur tel qu'il a été défini il y a un certain temps. Et en fait, on est plutôt sur des pratiques un peu plus complexes et qui sont assez différentes de ce qu'on a connu en Europe à la préhistoire. Et ça, effectivement, ça a créé en Australie des controverses sur le fait que les aborigènes En fait, la controverse, c'est surtout focalisé sur savoir si les aborigènes ont développé ou pas une agriculture. Or, la question, c'est pas vraiment de savoir si c'est une agriculture comparable à celle que nous on a fait à partir d'accumulation de ressources, mais c'était plutôt une façon de gérer les ressources de manière complètement différente, de manière raisonnée, de manière collaborative. Et donc voilà, quel que soit le nom que ça prend, ce sont des façons d'envisager le paysage qui sont assez novatrices en fait.
Alors on a d'autres rituels qui ont récemment été mis à jour dans la grotte de Clogs, dans le sud-est de l'Australie. On continue d'explorer ces vestiges du passé, du présent. Restez avec nous. Malkari Song, un chant aborigène de la réserve de Cap Work, dans le nord du pays. On parle en direct sur France Culture d'archéologie aborigène en compagnie de nos deux invités du jour, Arnaud Morvan, chercheur en anthropologie et histoire de l'art autochtone à l'université de Brest et de Melbourne, et Jean-Jacques Delannoy, anthropo-géomorphologue, professeur à l'université Savoie-Mont-Blanc et membre du Centre d'excellence pour la biodiversité et le patrimoine australien. On a parlé des premières traces de peinture rupestre sur ce territoire, on a parlé de la saisissante continuité culturelle, de la fidélité des gestes rituels aborigènes à travers les âges. Arnaud, Jean-Jacques Delannoy, parlons de cette découverte sur laquelle vous avez d'ailleurs vous-même, enfin, vous avez participé à faire cette découverte dans la grotte de Clogs. Ça a fait l'objet de nouvelles fouilles récemment. Et on a des preuves d'un rituel qui s'est transmis là sur plus de 500 générations. Ça représente quand même 12 000 ans d'un rituel pratiqué de façon continue dans le temps.
Alors effectivement, ça, c'était une découverte assez fabuleuse parce que dans le sens où Clos Cave, on y travaille avec la communauté Kunakunai, puisque c'est un site très important pour cette communauté. C'est une toute petite grotte, mais qui a une très 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 grande importance dans la communauté. Et donc, au départ, la demande de la communauté était de savoir un peu tout ce que contenait dans cette grotte, parce qu'elle avait été étudiée il y a déjà très longtemps, dans les années 80, et il y avait pas mal de controverses, en fait, sur ce qui avait été ressorti de ça, et puis qui n'avait pas été fait vraiment en connexion avec la communauté. Donc là, on a refait, on a reparti sur les fouilles, donc, de ce site-là. Là aussi, un site qui est occupé depuis très longtemps, hein, puisqu'on a des premières occupations autour de 25 000 ans jusqu'à environ 1500 ans avant aujourd'hui. Et quand on a fait les fouilles, effectivement, on a été interpellés parce qu'on a trouvé vraiment des tout petits foyers, mais des foyers vraiment ridicules, c'est-à-dire quelques pierres, un peu de charbon de bois à peine consumé, et puis toujours associés à un ou deux bâtons dont eux-mêmes très peu carbonisés, juste l'extrémité, mais vraiment très très peu. Donc ça nous a interpellés, donc du coup on a continué les fouilles et puis on a vu que ça se répétait extrêmement souvent dans le site, et on avait extrêmement de mal à interpréter ça. Donc là il y a eu tout un travail qui a été fait par une approche extrêmement interdisciplinaire, et ça c'est aussi quelque chose qui est extrêmement fort en Australie, le travail entre différentes disciplines, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait naturel et permet d'avancer très très loin. Et là, donc, il y a eu des analyses qui ont été faites sur les bois. Et puis, finalement, on a constaté que c'était toujours le même bois, une essence, Casuarina, bon, une sorte d'arbre qu'on trouve encore aujourd'hui. Et puis après, en faisant des études qu'on appelle archéométriques, des analyses sur ces bois, on a vu qu'ils étaient toujours recouverts de graisse de kangourous. Et finalement, on constatait qu'au fur et à mesure du temps inscrit dans la fouille archéologique, on avait toujours exactement le même protocole qu'on retrouvait. Mais on avait beaucoup de mal, en fait, à interpréter ça. Et c'est à ce moment-là que la communauté, elle a dit, bah, nous, on va faire un peu des recherches dans les écrits faits par les premiers ethnologues qui avaient accompagné les colons. Et ils ont retrouvé un texte donc, du 19e siècle et qui relate, en fait, exactement, donc, avec les mêmes essences d'arbres, avec également recouverts par des graisses, etc., et qui raconte, en fait, un rituel, qui était un rituel de guérison, avec fait par des guérisseurs qu'on appelait les Moulongs, et qui chantaient le temps de ce rituel de guérison, en chantant le nom de la personne qui venait pour se faire guérir. Et en fait, le rituel se passait comme ceci, il y avait un petit foyer sur lequel on avait ce bâton qui était planté en fait au milieu et droit dans ce micro foyer. Il y avait un petit feu et tant que le bâton restait droit, c'est le rituel continuait le jour et quand il tombait, ben c'était la fin du rituel, c'était la fin du chant et c'était la guérison. Et là, c'est vrai que retrouver exactement les mêmes gestes, le même protocole, les mêmes essences de 12 000 ans jusque le 19e siècle, ça c'est quelque chose qui est extrêmement fantastique, quoi. 12 000 ans entre ce qui est le plus vieux foyer qu'on a trouvé et puis des rituels qui ont encore persisté au 19e et début 20e. Tout ça dans un même lieu. Donc, c'est ça qui est aussi incroyable, c'est que ce lieu, il a été investi au moins depuis 12 000 ans pour ces rituels de guérison. Et là, c'est là qu'on voit de nouveau cette puissance de la tradition orale qui va transmettre toujours donc, le même protocole ici, le rituel. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement rare de trouver cette continuité de gestes.
C'est rarissime, en effet. C'est une découverte sans précédent en Australie et dans le monde entier sur les traditions narratives Gunaï Kurnaï et sur cette transmission des connaissances. On va continuer justement à explorer ce patrimoine-là avec le reportage du jour. La transmission des mythes aborigènes passe par diverses pratiques artistiques qui s'entrelacent au cours des cérémonies. Un des médias traditionnels de ces peuples, c'est la peinture sur écorce. Et pour comprendre quel est son rôle, le mieux c'est peut-être d'aller la voir. Alors on y jette un œil avec vous, Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes rendu au musée du Quai Branly pour voir ces peintures sur écorce. C'était pas l'Australie.
Et du musée du Quai Branly, j'ai quand même été transporté directement en terre d'Arnhem. C'est de cette région côtière et tropicale du nord de l'Australie que proviennent les œuvres que j'avais sous les yeux pendant mon reportage. Dans la chambre des écorces du musée, les styles de peinture sont très variés. On y retrouve des figures anthropomorphes, des représentations animales ou encore des motifs un peu plus complexes. Toutes ces œuvres sont reliées à différents êtres ancestraux et elles se mêlent à des chants cérémoniels qu'on entend en fond sonore, des chants qui retracent notamment les actions de ces êtres ancestraux à travers le territoire. Face à nous, une trentaine de peintures sur écorce qui viennent de la terre d'Arnhem. Ce sont des bouts d'écorce d'eucalyptus traités et aplatis sur lesquels des motifs ont été peints à l'ocre. L'une d'elles est composée d'un réseau de losanges noirs, rouges et blancs. Elle fait la taille du torse d'un jeune garçon. Et ça, ce n'est pas un hasard parce que ces peintures sont reproduites directement sur le corps lors de cérémonies culturelles. C'est ce que raconte Jessica de Largielli, qui est anthropologue et chercheur CNRS au laboratoire d'ethnologie et de sociologie de Nanterre.
Ce sont des peintures qui sont réalisées dans le cadre de cérémonies d'initiation, donc la première cérémonie d'initiation des garçons quand ils vont devenir des hommes. Et ça se passe généralement entre l'âge de 8 et 10 ans. C'est des cérémonies qui peuvent durer plusieurs semaines et au fur et à mesure, on va leur apposer sur le corps des peintures corporelles qui deviennent de plus en plus sophistiquées et certaines des plus belles peintures sont justement réalisées dans ce cadre-là. Les peintures sont comme des cartes d'identité, c'est quelque chose que les aborigènes de cette région vont dire. Ces peintures nous disent qui nous sommes, elles expriment l'identité profonde des membres des différents groupes. Ces motifs ont une origine ancestrale, ils ont été créés par des êtres ancestraux particuliers. Et donc sur la petite écorce en question, les losanges, ces losanges représentent les alvéoles d'une ruche d'abeilles. C'est lié à un être ancestral abeille qui appartient au clan Gopapuimu et qui identifie spécifiquement ce clan-là.
On a juste au-dessus deux œuvres qui ressemblent à de l'art pariétal ou de l'art rupestre, je ne saurais pas dire. Pourquoi il y a ces types d'œuvres qui semblent un petit peu différentes de toutes les autres dans le mur qu'on a sous les yeux ?
C'est juste des manières différentes de peindre et ça reflète d'ailleurs tout à fait la manière dont les parois rocheuses, les sites pariétaux dans cette région, sont organisés. C'est-à-dire qu'on peut trouver sur un même site des peintures extrêmement différentes qui datent de périodes extrêmement différentes. Donc on remonte à environ 20 000 ans pour cette région. Et donc on va retrouver des plus anciennes, dont certaines vont par exemple documenter des animaux qui n'existent plus, notamment de la mégafaune, des espèces qui ont disparu depuis des milliers d'années. Et par ailleurs, on va retrouver des représentations beaucoup plus récentes, par exemple des voiliers, des praos indonésiennes qui appartenaient à des pêcheurs qui venaient de Port Makassar, pendant plusieurs centenaires qui venaient sur les côtes nord de l'Australie pour faire du commerce avec les aborigènes. Donc on va retrouver des représentations de leurs bateaux à voile, très caractéristiques. On va retrouver des représentations de vaisseaux de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'était le conflit avec les Japonais sur ces côtes-là. Donc voilà, donc c'est vraiment les peintures rupestres, c'est vraiment des sortes de chroniques historiques des contacts et de ce qui se passe dans l'environnement et qu'on retrouve donc sur ces parois et, comme je le dis, parfois jusqu'à 20-30 peintures différentes superposées les unes sur les autres.
Je vous avais demandé si vous aviez peut-être des carnets de travail. Est-ce que vous en avez pris sur vous ou pas ?
Oui, j'ai choisi de manière tout à fait... j'ai choisi un carnet qui est un tout petit carnet. Et donc, effectivement, c'est mon outil de travail principal. Donc ça, c'est le petit carnet que j'ai dans la poche et que j'emmène partout avec moi, sur lequel j'écris comme ça sur le vif des noms, des choses. Et après, j'ai un carnet un petit peu plus grand qui est plus une sorte de forme de récit quotidien de qu'est-ce que j'ai fait, etc.
Là, sur le carnet, je vois que vous avez ouvert une page en particulier. Ici, ouais. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut lire ? Je vois déjà que vous discutez, c'est plutôt logique, avec les populations locales en anglais, j'imagine, puisque vos notes sont essentiellement en anglais, même s'il y a des mots de langue locale.
Donc là, en l'occurrence, je travaillais avec quelqu'un avec qui je travaille depuis une vingtaine d'années, qui s'appelle Michael Mungula Gaikamanu, et qui est le fils d'un peintre, qui est lui-même peintre. Et en fait, on regardait les photos des peintures de son père qui sont ici au musée du Quai Branly. Et donc, là-bas, voilà la première phrase, « I have copyright for my father's paintings ». C'est intéressant parce qu'effectivement, il parle en anglais, il utilise une sorte de jargon juridique, il a le copyright, donc ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est lui qui a hérité du droit de peindre cette peinture-là en particulier, ce motif-là en particulier. Donc, parce qu'il a hérité du droit de peindre, il a hérité aussi du droit d'en parler. Donc, il est la personne légitime avec qui parler de cette peinture.
Petit point concernant ce carnet aussi, vous m'en parliez tout à l'heure hors micro. On est chanceux d'avoir accès à ce carnet parce que c'est assez intime, un carnet d'anthropologue. A priori, ça se partage pas et ça se montre pas.
Oui, parce que c'est vraiment des notes qui sont prises pour soi d'une certaine façon et qui contiennent des informations qui sont extrêmement personnel. On parle de données personnelles de nos jours. Là, c'est vraiment aussi des données personnelles. C'est ce que certaines personnes m'ont dit, qu'elles n'ont pas forcément envie de partager avec tout le monde. Donc après, il y a vraiment un travail de tri.
Il y a un arbitrage qui est fait pour savoir ce qu'on peut publier derrière, absolument, dans toutes les données qu'on a récupérées. C'est une forme d'éthique de l'anthropologue à propos de ces données.
Tout à fait. Et c'est un vieux sujet de l'anthropologie. Comment parler du secret sans divulguer le secret Donc on est complètement là-dedans. Donc dans ce carnet, il peut y avoir des choses effectivement qui ne sont pas du tout destinées à être publiées, qui sont des choses que j'ai notées pour moi, pour m'en souvenir, pour m'aider à comprendre certaines choses, à créer des liens entre différents domaines de savoir, mais qui ne sont pas du tout destinées à être publiées. Et c'est effectivement une question éthique que se pose l'ensemble des anthropologues.
Vous allez, j'imagine, retourner en terre d'Arnhem. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les prochaines choses que vous allez chercher là-bas ?
Alors, je pars en terre d'Arnhem début juillet et je vais faire deux choses différentes. D'une part, je vais dans une très petite communauté familiale, très isolée en terre d'Arnhem, et je vais participer à des funérailles. Donc c'est un moment qui est à la fois très triste parce que c'est les funérailles de ma mère adoptive, aborigène, la vieille dame qui m'avait adoptée quand je suis arrivée. C'est évidemment triste parce que c'est des funérailles, et en même temps c'est des moments qui réunissent des centaines de personnes pendant plusieurs semaines. Donc c'est aussi un bon moment pour se retrouver et pour justement avoir une compréhension profonde des cérémonies, y compris des peintures, puisque c'est dans le cadre des cérémonies que ces peintures sur écorce qu'on a vues ici vont vraiment être mises en performance d'une certaine façon, hein, qu'elles prennent tout leur sens avec la musique, la danse et tout ça. Et puis une deuxième partie du voyage qui sera dans un centre d'art, de retour dans la communauté de Milingimbi d'où proviennent ces peintures, pour poursuivre ce travail autour des collections et de documentation avec les différents descendants et ayants droit des peintures.
Merci Loïc Dutoit. Tous nos reportages en immersion sont à podcaster et à retrouver dans notre collection La Science au Labo. C'est sur votre appli préférée, l'appli Radio France, bien sûr. Arnaud Morvan, une réaction à l'écoute de ce reportage ?
Oui, alors ça me paraissait assez intéressant de parler des peintures sur écorce et du lien que Jessica de l'Argie-Élie a évoqué sur ce lien entre les peintures sur écorce et les peintures corporelles. Et les peintures sur écorce sont une forme pérenne des peintures corporelles. Et on a cette idée du corps humain un petit peu comme un intermédiaire entre le domaine spirituel des ancêtres et l'environnement. Et c'est grâce au corps humain et grâce à certains rituels, à certains chants, avec certaines peintures et certains mouvements qu'on va créer des connexions entre le domaine spirituel et l'énergie des ancêtres et les paysages, les espèces végétales ou animales qui le peuplent. Et donc les actions rituelles tendent à reconnecter justement l'aspect spirituel avec l'aspect environnemental, bien souvent dans les cérémonies. Et donc ces peintures sur écorce sont devenues un moyen ensuite de d'ancrer ces savoirs-là sur des supports permanents et de les faire circuler d'abord en Australie et ensuite à l'international. Et donc les peintures ont été collectées par des chercheurs européens, notamment les peintures de la collection du musée du Quai Branly. Elles ont été collectées par un anthropologue et artiste franco-tchèque qui s'appelle Karel Kupka, et donc qui a permis, en lien, en collaboration avec les artistes, à diffuser donc ce savoir à l'international et à nous permettre en Europe d'avoir accès à certaines de ces peintures et des savoirs qui y sont associés, et aujourd'hui qui font l'objet donc d'une documentation collaborative avec les descendants des peintres de ces peintures. Voilà.
Votre écoute, vous aussi, Jean-Jacques Delannoy, l'écoute de ce reportage sur ces peintures sur écorce.
Oui, ce qui a retenu mon attention aussi, c'était justement le début là, avec l'histoire du carnet de l'anthropologue. Et aussi ce qui se passe donc quand on fait les fouilles, quand on fait nos cartes, etc. C'est vrai que ce travail qui se fait avec les communautés, c'est un partage. Donc c'est un partage, dans la confiance. Et il y a des choses qui sont partagées avec nous, mais qui sont pas forcément à partager avec tout le monde. Et ça, c'est extrêmement... Pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau par rapport à ce qu'on fait dans les autres aires culturelles. Et cette éthique, en fait, notamment quand on fait des articles ou de l'envoyer à la communauté, et c'est la communauté finalement qui va donner son avis pour dire ben oui, ça vous pouvez le publier. De toute façon, la communauté est toujours associée aux publications, ou vous ne pouvez pas le publier, ou on préférerait que vous ne publiez pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous chercheurs, parce qu'on a un lien en fait très très fort ici avec la communauté, et on pourrait dire avec le territoire. Et souvent, quand je travaille en France sur des sites ornés aussi, bon, là en ce moment je fais des sites ornés dans le sud de la France, souvent je me pose la question, mais finalement, on ne discute pas avec les populations, avec les citoyens, qu'on est un peu dans leur territoire et on n'en parle pas suffisamment, on prend peut-être pas le temps de le faire, etc. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important, quoi. Je veux dire, cette confiance donnée, cette confiance accordée qui se fait dès lors qu'on est sur le terrain.
Alors comment les peintures et les cérémonies rituelles anciennes sont-elles aujourd'hui réactivées? Restez avec nous.
Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
En direct sur France Culture avec Arnaud Morvan et Jean-Jacques Delannoy, nous parlons de l'archéologie quand elle se frotte aux traditions aborigènes en Australie. Arnaud Morvan, on a un art contemporain aborigène aujourd'hui qui est porteur de mémoire et de revendications culturelles. On peut peut-être voir ensemble quels sont justement ces rituels anciens, parfois toujours transmis, parfois tombés dans l'oubli, mais qui sont aujourd'hui réactivés.
Alors oui, bien souvent des rituels qui, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, qui consistent à créer des ponts en fait entre les ce que les ancêtres ont laissé dans certains lieux et l'environnement, et comment capter cette énergie des ancêtres pour la diffuser dans l'environnement. Alors ça peut être des choses assez concrètes, comme ça peut être des cérémonies qui impliquent des disséminations de graines, ça peut être des cérémonies qui vont créer des espaces dédiés, des sortes de sanctuaires où les animaux ou certaines espèces d'animaux vont être protégés pendant un certain temps, pendant certaines périodes de l'année pour leur permettre de se reproduire, par exemple. Et toute une série de savoirs également plus ésotériques sur les identités masculines, féminines, sur également la vie après la mort, sur les cérémonies funéraires. Et donc chacune de ces cérémonies sont inscrites dans des peintures et sont en référence à des lieux précis. Et donc ces peintures sont également peuvent être considérées comme des formes de titres de propriété sur les lieux dans lesquelles elles s'inscrivent. Et donc, elles ont été utilisées, ces peintures contemporaines, donc, qui ont été faites à partir des années 1960-1970. Elles ont été utilisées dans les tribunaux, dans le cadre de revendications territoriales, comme preuve d'une appartenance et d'une propriété et d'un savoir continu en lien avec certains lieux. Et donc, ont permis la reconnaissance de titres autochtones de propriété pour certains. Un groupe aborigène.
En effet, il a fallu attendre le Land Right Act de 1976 pour que les aborigènes voient leurs droits fonciers reconnus, c'est-à-dire donc, quand même 2 siècles plus tard. Arnaud Morvan, actuellement, vous menez des recherches dans le nord de l'Australie, en collaboration toujours avec les insulaires, sur la fabrication des masques, c'est ça ?
Oui, là, en ce moment, je travaille dans le détroit de Torres avec donc les insulaires du détroit de Torres qui sont le deuxième groupe autochtone australien. Il y a des aborigènes qui peuplent le continent australien et la plupart des îles de l'Australie. Et les îles du nord de l'Australie, entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie, appartiennent donc aux insulaires du détroit de Torres, qui ont des traditions anciennes de masques totémiques fabriqués à base de carapaces et d'écailles de tortue. Et qui, depuis le 19e siècle, intègre également des matériaux modernes, des matériaux extérieurs, comme le métal, le fer ou parfois le plastique. Et donc c'est pareil, il y a toute une histoire, des récits historiques en fait qui peuvent être lus dans ces objets, dans ces masques, à travers l'histoire de leurs matériaux, de la provenance de leurs matériaux, qui peuvent venir des missions, des premières missions qui se sont installées au 19e siècle, des bateaux de passage et des différents échanges que ces populations avaient avec les Indonésiens ou les populations de Papouasie, par exemple.
Voilà, des cérémonies qui ont été interdites par le pouvoir colonial. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo. Mais un grand merci à Arnaud Morvan, un grand merci Jean-Jacques Delannoy de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on quitte l'Australie et on s'envole loin dans l'espace pour observer les premières lueurs du cosmos. C'est la chronique avec science.
Comment le télescope James Webb scrute-t-il les premières lumières de l'univers? C'est l'un des objectifs principaux du JWST, pouvoir voir le potron miné cosmique, l'aube de l'univers. Elle démarre quelques centaines de milliers d'années seulement après le Big Bang. Progressivement, les étoiles s'allument et c'est cette lumière qu'on tente de capter pour dater précisément l'ère stellaire. Cela fait 3 ans maintenant que le James Webb est en service. Seulement, pour pouvoir voir ces premières lumières, il ne suffit pas seulement d'avoir des instruments très performants, il faut aussi s'aider d'une sorte de loupe naturelle, et c'est ce que fait le programme GLIMPSE. Hakim Atek dirige ce programme d'observation, il est astronome à l'Institut d'astrophysique de Paris.
Après 3 ans d'observation à peu près, nous avons principalement observé des galaxies relativement brillantes, et qui ne sont finalement pas assez représentatives de la population des premières galaxies. Donc c'est comme si on voyait que la partie émergée de l'iceberg. Donc avec le programme GLIMPSE, ce qu'on a essayé de faire, c'est de détecter justement les plus petites galaxies, donc peut-être les premières galaxies. Pour ça, nous avons combiné la puissance du JWST avec un autre télescope naturel cette fois-ci, qui est créé par une lentille gravitationnelle. C'est-à-dire que c'est une concentration énorme de masse, donc c'est un amas de galaxies massives qui va déformer l'espace-temps et en même temps faire un effet loupe, c'est-à-dire amplifier la lumière de ces galaxies lointaines, et ce qui nous permet de remonter à ce fameux potron miné cosmique. Et donc l'image obtenue avec cette combinaison constitue la vue la plus profonde de l'univers.
Les scientifiques ont le choix entre plusieurs de ces télescopes naturels. En l'occurrence, dans cette nouvelle image la plus profonde de l'univers, c'est la galaxie Abel S1063, située dans la constellation de la Grue, qui sert de lentille gravitationnelle. En pointant le James Webb dans sa direction, il est donc possible de voir beaucoup plus loin dans l'univers primitif et de détecter des galaxies qu'on espère être les premières. Mais comment être certain qu'il s'agit bien de la première génération de galaxies? Eh bien, on s'attend à ce qu'elles soient de très faible luminosité, ce qui implique un très long temps d'observation. L'instrument NIRCAM du James Webb a dû regarder cette zone du ciel pendant 120 heures d'affilée pour capter les très rares photons qui nous parviennent. Résultat, ce premier champ profond du James Webb a détecté des galaxies situées 220 millions d'années seulement après le Big Bang, ce qui est un record, et l'une d'entre elles pourrait bien abriter la toute première génération d'étoiles.
Qu'on avait découvert qu'il y avait trop de galaxies brillantes à environ 400 millions d'années après le Big Bang. Ici, il semble qu'on voit plus ces galaxies brillantes. On ne voit plus que des galaxies de faible luminosité quand on remonte un peu plus loin. Et comme si on éteignait finalement cette période de formation des premières galaxies. Donc, ces petites briques qui vont engendrer les galaxies les plus massives plus tard. Donc, ça, c'est la première découverte de ce programme GLIMPSE. Et dans le même champ, on a découvert également dans cette image une galaxie qui pourrait abriter la première génération d'étoiles. Donc c'est ce qu'on appelle les étoiles de population 3. Donc sur ces populations 3, nous avons beaucoup de théories sur la formation des premières étoiles, mais on n'a jamais encore observé cette population. On s'attend à ce que ces étoiles de population 3 se forment à partir du gaz primordial, formé juste après le Big Bang. Donc le gaz primordial, il ne contient que de l'hydrogène et de l'hélium. Donc quand on cherche ces étoiles de population 3, on cherche principalement des signatures d'hydrogène et d'hélium et l'absence de signatures d'éléments plus lourds comme l'oxygène. Et donc c'est exactement ce qu'on a observé ici dans cette galaxie, des signatures intenses d'hydrogène et d'hélium et pas de traces d'oxygène.
L'instrument NIRCAM du James Webb observe dans l'infrarouge moyen. Cela lui permet de transpercer la poussière interstellaire et donc de voir très loin. En revanche, cela ne suffit pas pour dire qu'il s'agit à coup sûr de la toute première génération d'étoiles. Pour cela, il faudra avoir recours à un autre instrument en spectroscopie, cette fois le NIRSPEC, pour confirmer la nature des éléments chimiques à la surface de ces premières étoiles. Le prochain créneau d'observation partagé par cette équipe et d'autres aura lieu en juillet, cette fois avec 300 heures d'observation. Le programme s'appelle Vénus, il sera moins profond que GLIMPSE, mais les scientifiques misent sur une soixantaine de lentilles naturelles pour aiguiser la vue du James Webb.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Lou Anger, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales. À la réalisation, c'est Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, c'était Timothée Hubert. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.